L'actualité des Alpes du Sud, il n'y aura pas de transfert obligatoire de compétences sur l'eau en 2026.
Ce sont les mots de Michel Barnier, le Premier ministre au Sénat. Jean-Michel Arnaud, le sénateur aux Alpins qui s'était emparé de la question, voit son travail payé. Lui qui plaidait pour une liberté locale d'organisation de la compétence et assainissement. Il doit encore présenter une loi à partir du 17 octobre devant la Chambre haute, soit le Sénat.
Mobilité, l'agenda de la région est désormais tourné vers les JO de 2030.
Renaud Muselier, le président de la région, a donné une conférence de presse hier sur le sujet à Marseille. Des itinéraires routiers seront sécurisés avec des opérations conduites dès cette année dans les Hautes-Alpes. Des investissements lourds sont prévus sur le ferroviaire également au niveau de l'étoile ferroviaire de Vennes.
Et puis le sujet du Paris-Briançon qui s'invite à l'Assemblée nationale.
D'abord avec la députée des Hautes-Alpes, Marie-Josée Allemand, qui appelle à la mobilisation de la population pour soumettre une question écrite au nouveau ministre des Transports sur ce sujet. Un train de nuit qui s'est aussi invité lors d'une audition du PDG de la SNCF. Jean-Pierre Farandou était auditionné par les députés réunis en commission du développement durable le 2 octobre dernier. Il a notamment reproché à l'État un manque d'investissement sur la ligne.
Et puis les urgences de Manosque qui resteront fermées la nuit jusqu'au 21 octobre inclus.
Mais des urgentistes sont en cours de recrutement. Franck Pouilly, le directeur du GHT du 04, espère qu'on pourra parler d'une réouverture complète des urgences d'ici 2025.
Et la question de l'eau s'est donc invitée au Sénat hier.
Michel Barnier est amené à répondre à une question sur les économies à réaliser par les collectivités territoriales pour 2025, a fait une digression sur la compétence eau, un sujet cher à nos sénateurs des Alpes du Sud, Jean-Yves Roux, qui a sorti un rapport justement récemment, et Jean-Michel Arnaud, le représentant eau alpin, plaidait pour une liberté locale d'organisation de la compétence et assainissement avec un objectif, rendre facultatif le transfert de la compétence vers l'intercommunalité. Le Premier ministre Michel Barnier est allé dans ce sens hier au Sénat. On l'écoute.
Je pense qu'il est temps de clôturer, depuis la loi NOTRe de 2015, ça fait presque 10 ans maintenant, ce qui est une vraie difficulté, peut-être une blessure, dans la confiance entre le gouvernement et le Sénat. Voilà pourquoi, avec Catherine Vautrin et Françoise Gatel, nous souhaitons adopter, le gouvernement adoptera une position de clarté qui est souhaitée par le Sénat. On ne va pas revenir, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, sur les engagements déjà pris, sur les transferts déjà réalisés. Il n'y aura plus de transfert compétences obligatoires en 2026. Voilà. Pour les communes qui n'ont pas encore transféré la compétence, il n'y aura plus de transfert obligatoire et nous allons continuer avec les ministres concernés et avec vous à travailler pour affiner cette orientation qui, je crois, permettra de faire comprendre aux communes, malgré l'engagement que nous avons, de faire cet effort ensemble, que nous souhaitons leur donner plus de liberté et leur faire davantage confiance. Merci.
Rémi Roux, conseiller départemental des Hautes-Alpes, salue cette décision sage et de bon sens face à une mesure qui, je cite, était davantage source de désorganisation et de doublons. Notre travail paie, réagit Jean-Michel Arnaud sur son compte X, anciennement Twitter. Le sénateur haut-alpin portera d'ailleurs un texte à partir du 17 octobre au Sénat dans ce sens.
Alors, on va rester dans l'eau, mais dans la pluie, cette fois-ci, une pluie abondante dans le Champsaur.
Dans cette vallée, il est tombé 2150 mm de pluie depuis un an. C'est ce qu'annonce le météorologue indépendant de Météo Alpes-Durance, Paul Marquis. Un chiffre obtenu grâce au relevé sur la commune de La Motte en Champsaur. C'est presque deux fois plus que la normale, puisque Paul Marquis rappelle qu'il tombe en moyenne entre 900 et 1000 mm par an sur le secteur.
De l'eau qui a fait des dégâts sur les routes des deux départements cette semaine.
Un temps fermé à cause de la présence de 5 tonnes de roches sur la chaussée mardi. La route départementale 4085 à la Clue de Tolane a rouvert à la circulation hier midi. Une information confirmée par le département des Alpes de Haute-Provence. L'éboulement s'était produit mardi matin après de fortes pluies.
Et puis le Galibier fermé lui aussi à cause de l'eau.
Mais cette fois à cause de l'eau sous forme solide, la neige et la glace sur la route qui relie les Hautes-Alpes à la Savoie. Du verglas en grande quantité. C'est ce qui contraint Marcel Canal, le vice-président des Hautes-Alpes en charge des routes, de fermer cet axe jusqu'à demain 10h.
Avec les JO d'hiver 2030, Renaud Muselier souhaite saisir l'opportunité pour développer la mobilité durable en région.
Lors d'une conférence de presse hier matin à Marseille, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rappelé que 35 millions de voyageurs empruntent les TER chaque année. Ils sont 17 millions de voyageurs dans les cars Zou. Si plusieurs gros chantiers vont mobiliser la région les prochains mois, L'agenda est désormais tourné vers les JO de 2030. Les explications d'Aurore Valory.
J'ai confiance dans les Jeux Olympiques de 2030 pour faire avancer les dossiers. Renaud Muselier en est persuadé. Les Jeux Olympiques d'hiver seront un accélérateur pour le territoire. Le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur espère que les JO positionneront la région comme une destination de premier plan. Pour cela, il veut mettre en place un plan de transport ambitieux, un plan qui concernera notamment les Hautes-Alpes en matière d'infrastructure routière. Renaud Muselier rappelle que plusieurs points noirs touchent le territoire, le carrefour de Tallard ou encore la traversée de la Roche de Rame. Des itinéraires routiers qui seront sécurisés avec des opérations routières conduites dès cette année. Le maire de la Roche de Rame, Michel Frison, rappelle que sur sa commune, ce n'est pas une déviation, mais bien un projet de requalification de la RN qui a été acté par l'État. Entre 17 et 20 millions d'euros pourraient être mis sur la table dans ce dossier. La région, qui interviendra en tant que cofinanceur sur le volet de contrats de plan État-Région 2023-2027 et 2027-2032. Et les JO de 2030 devraient aussi apporter leur pierre à l'édifice dans le cadre de la loi de programmation. Des JO qui auraient aussi un effet d'accélérateur sur ces travaux, selon le maire de la Roche de Rame.
Je ne suis pas certain que sans les JO, nous puissions atteindre cet objectif de 2030. Je crois que c'est le but affiché pour tous les partenaires de ce projet et pour tous les investissements qui vont être consacrés au volet routier. Pour l'instant, je sais que l'État et le président Muselier négocient cette enveloppe pour pouvoir que ces JO jouent leur effet levier tant attendu. Nous espérons tous que pour le Jurame, ce sera quelques millions, mais il est évident qu'aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas s'avancer sur une quelconque hypothèse chiffrée.
Quant à l'offre de train, 151 millions d'euros sont d'ores et déjà inscrits dans le CPER 2023-2027 entre l'État et la région pour rénover le réseau ferroviaire, notamment l'étoile de Veynes. Pour la région, ces travaux de modernisation devraient permettre d'améliorer la desserte des stations. Concernant la ligne Marseille-Briançon, des investissements significatifs vont être menés. Objectif, réduire le temps de trajet à 3h30. Enfin, la région annonce qu'un réseau de transport en commun doit être mis en place pour relier les sites olympiques et les villages d'athlètes.
Merci Aurore. Autre objectif pour la région, la décarbonation avec 100% des cars régionaux qui seront verts d'ici 2028.
Et le Paris-Briançon qui s'invite à l'Assemblée nationale.
D'abord avec la députée des Hautes-Alpes, Marie-Josée Allemand. Dans une courte vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, elle appelle à la mobilisation de la population pour soumettre une question écrite au nouveau ministre des Transports. Elle demande à François Durovray l'échelonnement des investissements pour le train de nuit, le renouvellement du parc et une augmentation du nombre de voitures.
Et ce fameux trajet également au menu de Jean-Pierre Farandou la semaine dernière.
Le PDG de la SNCF était auditionné par les députés réunis en commission du développement durable le 2 octobre dernier. Alors que des travaux sont menés dans la Drôme, le train est en situation de quasi-arrêt depuis la mi-septembre. Le PDG de la société a rejeté la faute sur l'État quant au matériel utilisé sur la ligne. Selon lui, il faudra aussi tenir l'échéance des JO 2030.
Je rappelle, les trains de nuit, c'est l'État qui décide, hein. C'est les trains d'équilibre du territoire. Je le redis, l'élément majeur, ça va être le matériel roulant. Pour le moment, on fait du neuf avec du vieux. On a rénové nos vieilles voitures, nos vieilles couchettes. Ça marche. Par contre, le développement supposera des décisions de l'État. Moi, je pense qu'il y a un enjeu sur Paris-Briançon, c'est les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, c'est 2030. Il faudrait vraiment se mettre d'accord pour qu'en 2030, on ait un train de nuit de qualité pour amener les gens qui arriveront sur Paris à Briançon. Si on ne peut pas faire les travaux, ben c'est à ce moment-là que la ligne n'est pas fiabilisée, donc il y a des pannes. Peut-être des discussions à voir sur comment on fait les travaux, mais il faut les faire, ces travaux. Voilà. C'est vraiment la ligne historique des trains de nuit, parce que c'est vraiment la région qui ne peut pas être desservie par des trains de jour. Dans d'autres endroits, il y a des alternatives, là, il n'y en a pas, parce que passer par Valence, c'est pas évident. Passer par Marseille et remonter, c'est pas évident. Donc le train de nuit a toute sa place. Et j'espère que là aussi, l'État pourra trouver les ressources pour, au moins pour les Jeux Olympiques 2030, créer les conditions pour à la fois que les travaux soient terminés et à la fois que le matériel neuf soit arrivé.
Au Au programme lors de cette commission également, le Paris-Milan qui passe notamment par Oulx, un point de départ et d'arrivée qui intéresse les Briançonnais mais qui ne fonctionne plus depuis les éboulements dans la vallée de la Maurienne il y a un peu plus d'un an. Nous prévoyons une réouverture de la ligne en mars ou avril 2025, annonce Jean-Pierre Farandou. Les travaux de sécurisation sont complexes en raison de la roche friable, a expliqué le PDG de la SNCF. En bref, le congrès de l'Association nationale des élus de la montagne débute aujourd'hui. Cela se passe à Super Dévoluy. Un honneur pour la maire du Dévoluy, Alexandra Butel, qui estime que son territoire est notamment mis en lumière par les performances de Cyprien Sarrazin. Hier, à la veille de ce 40e congrès intitulé Futur durable, la montagne au défi, le maire de Briançon, Arnaud Murgia, a appelé à une nouvelle loi montagne dans un texte publié dans la Tribune avec plus de décentralisation et des modifications sur la question de l'eau. Pour rappel, deux ministres délégués seront présente sur l'événement sur ces deux jours, Françoise Gatel, chargée de la ruralité, et Marina Ferrari, chargée de l'économie du tourisme.
Et on termine avec les urgences de Manos qui resteront donc fermées la nuit jusqu'au 21 octobre inclus.
Information relayée par la direction du GHT des Alpes de Haute-Provence, le groupement hospitalier de territoire. Sur cette période, le service continuera d'accueillir les patients la journée de 8h30 à 18h30. Le SMUR et l'accueil des femmes enceintes resteront maintenus. Avant tout déplacement, il est conseillé d'appeler le 15 pour bénéficier d'une régulation. Des urgentistes sont en cours de recrutement. Franck Pouy, le directeur du GHT, espère qu'on pourra parler d'une réouverture complète d'ici 2025.
C'est un sujet sur lequel on a là des vraies pistes, puisqu'on a trois urgentistes qui sont en cours de recrutement sur Manosque. Donc on va pouvoir avoir les premiers effets à partir du mois de novembre sur les lits à Manosque et particulièrement à partir de décembre.
Oui, alors est-ce qu'on va enfin parler d'ouverture des urgences de Manosque la nuit de façon régulière ?
On va en parler régulièrement, c'est-à-dire qu'en effet, on est capable de remonter en une seule fois de 7 urgentistes, 16 urgentistes. On peut remonter par palier. Donc ce qui a été discuté avec l'Agence régionale de santé, c'est le principe de pouvoir réouvrir des nuits du vendredi, puis des nuits du vendredi samedi, puis vendredi samedi dimanche. Vous voyez, de remonter par palier vers une remontée complète, j'espère, en 2025.
Une interview réalisée par Cyril Cavamichard, Franck Pouilly qui, on le rappelle, va laisser sa place à Gilles Dufour à partir du 4 novembre prochain.
L'actu des Alpes du Sud continue sur alpe1.com, Facebook et Twitter.